Radio Kapi.
Oh, Kapi. Avec Billy Ivan Lutumba à la présentation.
En entame de ce journal, ce ras-le-bol des enseignants touchant leur salaire auprès de Ifod Caritas Boudjala dans le sud d'Ubangi, ce coup de gueule tient au fait des retenues injustifiées, le retard cumulé des paiements, ainsi que le déficit financier à répétition, ainsi souhaite-t-il être désormais payé à la Copec Bank. Autre Yanamar couplé de fatigue, c'est dans le territoire de Lubero. Plusieurs déplacés de guerre sont lassés d'aller ça et là au motif des affrontements entre FARDC M23 et autres conflits. Il y en a aussi d'autres des milliers qui affluent dans la commune rurale à Lubero Centre, dépourvue presque de tout. En fin de ce journal, vous suivrez Babou Ramazani. Il est directeur ad intérim à la prison centrale de Bukavu. Il est notre invité. Il revient sur cet incident et a causé mort d'homme au sein de cette maison carcérale suite à une intoxication alimentaire d'origine criminelle. Sous peu, nous vous déroulons les autres contours des divers faits d'actualité au pays en dehors de la RDC. Et c'est dans cette édition vespérale sur Radio Okapi en vous souhaitant d'excellentes conditions d'écoute. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. À Kungu, dans le sud d'Ubangi, les enseignants payés par Ifod Caritas Boudjala expriment leur désaveu à l'égard de cette institution. Ils déplorent les déficits financiers, les retenues injustifiées sur salaire et le décalage salarial entre les listes nationales et locales, ainsi que le retard cumulé des paiements. À cet effet, ils demandent le transfert de leur salaire à la Copec Bank qui dessert déjà dans la province voisine de la Mongala. Des détails avec vous, Paul-Richard Malingela.
Les enseignants du territoire de Kungu ont décrié les écarts de salaire entre les bordereaux de livraison de fonds envoyés par Kinshasa et les états de paie établis par la Caritas, mais aussi les retenues injustifiées et les liesses incomplètes. Au regard de ce qu'ils qualifient d'abus, les participants exigent entre autres la délocalisation de leur paie vers la Copec Bank et le remboursement des retenues. Emmanuel Bamolokula, président de l'intersyndicat des enseignants de Kungu, explique.
Rembourser sa condition les récents déficits de salaire des enseignants, plus de 4 millions de francs congolais, pour s'abstenir de retenues illégales sur le salaire des enseignants et enfin cesser de proférer des menaces d'intimidation contre les syndicalistes.
En réaction, le coordinateur de la Caritas Développement Boudjala parle de manipulation. Pour M. l'abbé Gilbert Gombo, son institution ne fait qu'appliquer un arrangement interne signé avec les enseignants.
Les retenues illicites dont lui parle, c'est faux. C'est un arrangement depuis 2014 entre les enseignants et la Caritas. Suite à sécurité et les braquages qui régnaient dans notre zone. La conclusion était qu'on pouvait retenir 1000 francs pour la sécurité, leurs fonds. Quant au retard de paie, il est général. Bon, s'il voit que ça ne va pas, c'est un contrat entre l'église et le gouvernement. S'il veut chercher le moyen, il écrit au gouvernement.
Dossier à suivre. Bandaka pour Chamalingela, Radio Okapi.
Dans le Kwilu, environ 1500 personnes victimes des inondations à la suite de la montée des eaux de la rivière Kasai en avril dernier. Nous sommes dans le village d'Imalumbu, se retrouvent dans des conditions humanitaire très déplorable dans le site de Inkoa qui a créé spontanément cette circonstance. Selon le ministre provincial des actions humanitaires du Kwilu, dans ce site situé à près de 12 km de la ville de Bandundu, ces sinistrés sont dépourvus de tout et consomment l'eau impropre au risque d'être contaminés aux maladies hydriques. Jérémy Bikiele, directeur du cabinet du ministre provincial des actions humanitaires, est au micro d'Irène Bauma.
À Dimalumbu, il y a eu le cas de la montée des eaux qui a affecté la cité ou le village d'Imalumbu, où aujourd'hui nous avons plus de 6000 personnes. Donc vous allez constater, nous sommes allés même dans le site de Koa. Là, ça peut avoisiner une affaire de 1500 personnes qui pourraient se retrouver. C'est un site qui est créé spontanément suite aux inondations, à la montée des eaux, où les maisons, les écoles, les centres de santé ont été écroulés et que ces personnes-là se sont réfugiées dans la brousse. Ils ont créé des petites huttes, c'est là où ils vivent actuellement. Et vous allez constater les conditions de vie, l'accès à l'eau. Je crois, j'avais même balancé certaines images qui montrent là où, l'endroit où ces personnes puissent de l'eau de boisson. C'est déplorable. C'est ainsi que nous disons que c'est une crise. C'est de l'eau impropre à la consommation. On ne peut pas consommer cette eau-là. Mais c'est de l'eau consommée actuellement par ces populations. Et donc, nous avons ces populations qui sont allées dans ces sites de Koa et les autres sont dans les familles d'accueil et aussi dans le quartier de Salaminta, il y a des personnes qui ont été victimes des inondations et qui n'ont pas été appuyées jusqu'à ce jour.
À 18h05 à Kinshasa, Radio Okapi dans cette tournée d'actualité vous amène au Kasaï où les victimes des violences liées au phénomène Kamuina Nsapu s'indignent de constater que 7 ans sont passés depuis ces événements, mais elles n'ont bénéficié d'aucune réparation par rapport aux préjudices subis. D'après le coordonnateur, l'on peut dénombrer à ce jour plus de 50 000 personnes qui attendent d'être indemnisées et remises dans leurs droits par la justice. Saluant tout de même la mise en place de Fonds National des Réparations des Victimes, Fonarev, Mirant Moulumba souhaite que le processus s'accélère pour que les victimes soient consolées dans leur frustration. Ces propos sont recueillis ici par François Kadima.
Les victimes du phénomène Kamuina Nsapu, elles sont en droit d'initier des recours pour obtenir réparation résultant du préjudice qu'ils auraient subi, mais jusque-là, les victimes n'ont pas jusque-là bénéficié aucun aspect réparateur résultant du préjudice subi. D'où l'appel vibrant que nous lançons, bien entendu, aux autorités de la République, particulièrement le gouvernement, de pouvoir prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour faire en sorte que ces victimes qui attendaient impatiemment la justice, non seulement la justice, mais aussi la vérité, le processus de réconciliation pour certaines communautés qui, jusqu'à ce jour, vivent en chaîne de faïence, qu'ils soient réconciliés, mais aussi la question la plus épineuse, c'est celle qui est liée à l'indemnisation de toutes ces victimes dont le chiffre s'élève à plus de 54 000. Mais entre-temps, qu'il nous soit permis de saluer la mise en place du Fonds national de réparation.
Du côté du Fonarev, justement, l'on indique que les processus est en cours avec d'abord l'identification des victimes avant de passer à d'autres étapes. Deuxième titre de cette édition vespérale sur Radio Okapi, dans le Nord Kivu, où il est 19h07, des milliers de déplacés qui fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans la région continuent d'affluer dans la commune rurale à Lubero Centre, chef-lieu du même territoire. Ils sont dépourvus de tout et affirment vivre un calvaire. Martial Papi Mukeba.
Ces déplacés, à majorité des femmes et enfants, fuient Kanyabayonga, Kirumba et Kaina sous occupation du M23. Beaucoup d'entre eux affirment avoir parcouru entre 100 et 135 kilomètres à pied avant d'atteindre Lubero Centre, et cela sans nourriture ni eau. Quelques-unes de ces femmes déplacées décrivent leur calvaire.
Nous avons fui Kanyabayonga jusqu'à Kirumba. Ils nous suivent à Kirumba, mais nous venons à Lubero. On se repose ici, mais nous allons mourir de faim. Nous demandons une assistance en nourriture et médicaments.
Nous avons marché de Kirumba jusqu'à Lubero. J'ai 4 enfants, sans eau et nourriture. Nous avons vécu une grande souffrance sur notre chemin.
Avec les enfants, nous souffrons beaucoup depuis le début de cette guerre. Nous demandons au gouvernement de trouver une solution pour que chacun retourne dans son milieu d'origine.
Sur place, à Lubero Centre, ces déplacés passent la nuit dans des écoles pour certains et pour d'autres à la Belle Étoile. Plusieurs humanitaires ont déjà quitté les territoires de Lubero à la suite de l'insécurité et de la crainte des dangers de la désinformation. Béni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Il y en a d'autres, des déplacés des guerres qui ont eux carrément décidé de regagner leur milieu d'origine. Non pas à cause de l'amélioration de la situation sécuritaire, mais plutôt parce qu'ils se disent fatigués de se déplacer au gré de l'avancée des rebelles du M23. Depuis le week-end, ces retours sont observés dans plusieurs localités de la région, indique la société civile locale. Et de Nord Kivu, nous nous rendons en Ituri où 9 bureaux d'organisations non gouvernementales locales et internationales sont déjà cambriolés depuis janvier par des hommes armés à Bounia. Ces derniers, munis de tous les équipements nécessaires, entrent par effraction dans les locaux de ces organisations et emportent tout à leur passage, coffre-fort et d'autres biens, affirment les victimes. La coordination de la société civile déplore ce regain d'insécurité qui affecte le travail de ces ONG en faveur des populations sinistrées par la guerre en Ituri. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Un groupe de jeunes désœuvrés s'est constitué en bande de criminels dénommés Oulor et se livre dans le banditisme dans presque tous les quartiers de la ville de Bounia. Les maisons des particuliers et les bureaux des organisations sont ciblés par ces bandits qui défient parfois les policiers en patrouille. Le dernier cas date de la nuit du 30 juin où une dizaine de bandits armés de fusils et d'armes blanches s'est introduit dans la cour d'une organisation nationale qu'ils ont dévalisée après avoir ligoté le vigile. La société civile de l'Ituri déplore cette situation qui prend de l'ampleur au chef-lieu de la province. Dieudonné Lossa, son coordonnateur.
C'est une bande de malfaisants profiteurs qui doivent avoir même leurs ramifications en dehors du pays. Et ça nous fait très mal parce que ce sont des organisations nationales qui contribuent énormément pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
Le commandant ville de la police à Bounia indique que parmi ces bandits, une cinquantaine sont déjà aux arrêts depuis la semaine dernière. Le colonel Abeli Mwangu.
Et avant la date d'indépendance, toutes les unités confondues de la police et celles des forces armées sont en alerte maximum. Certaines organisations non gouvernementales ont été visitées. Les enquêtes sont en train d'être menées.
Il demande à la population de Bounia de renforcer la collaboration avec les services de sécurité pour étouffer ces banditismes urbains. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
À présent, actualité liée au transport. La régie des voies fluviales, RVF, a lancé mardi la campagne de balisage de la rivière Kassai. Cette cérémonie a eu lieu au port de l'Office national des transports Onatra, commune de la Gombe, à Kinshasa. À cette occasion, le directeur général de la RVF, Daniel Loaboshi, a indiqué que cette opération va aller de la rivière Kassai jusqu'au port d'Ilebo, province du Kassai. Il a également sollicité du gouvernement des moyens nécessaires pour permettre à la RVF de baliser d'autres cours d'eau du pays. Les propos de Daniel Loaboshi sont recueillis par Blaise Nongala.
La RVF a un personnel qualifié et disposé, mais aussi du matériel approprié pour effectuer un balisage en permanence, mais alors elle est butée principalement à la précarité de sa trésorerie, due à l'aménagement des ressources financières propres provenant essentiellement des recettes sur la taxe de navigation et aussi à la dévaluation ou au non-décaissement de la subvention que l'État prévoit pour la RVF à titre des ex-BPO. Cependant, c'est ici l'occasion pour nous de demander à notre gouvernement de libérer également à temps les crédits budgétaires en faveur de la RVF de l'ordre de 3 755 724 090 francs prévus respectivement pour les balisages des cours d'eau de Sankuru, Kassai, Kwilu et Fimilukeni, dont le processus de passation des marchés pour l'acquisition des intrants est en phase terminale.
Autre nouvelle en lien avec le transport, c'est dans la province du Haut-Katanga où les taximotos sont une fois de plus interdits d'accès au centre-ville de Lubumbashi. Une mesure saluée par plusieurs personnes, mais contestée par les concernés qui estiment que cela restreint leur mouvement sans raison. Jean Gando.
La mesure est de l'autorité urbaine. Elle est motivée par le souci de rendre fluide la circulation au centre-ville où les motocyclistes sont accusés notamment de l'incivisme sur la voie publique. Ils stationnent n'importe où et ne respectent pas le code de la route, ce qui serait à la base de nombreux cas d'accident. Pour ce faire, l'autorité urbaine a défini les périmètres au-delà desquels ces motocyclistes ne peuvent aller. C'est entre autres l'avenue des écoles, l'angle des boulevards Katouba et Femme Katangaise, la route Kipouchi et le boulevard Kamaniola à la hauteur du jardin zoologique. Pour le maire intérimaire de Lubumbashi, le récalcitrant seront sommés de payer les amendes. Et les motos saisies doivent passer 10 jours au moins à la fourrière avant d'être récupérées par leurs propriétaires. Déjà, plusieurs dizaines de motos de ceux qui ont bravé cette interdiction sont à la fourrière de la mairie. Tout en sinon, devant cette mesure de l'autorité urbaine, les motocyclistes la désapprouvent car elle ne leur permet pas de bien travailler. L'un d'eux explique.
Il faut que le maire de la ville puisse regarder sa décision parce que nous sommes des responsables. Nous n'avons pas d'autre travail. Notre proposition qu'il puisse nous faire libérer des barrières là, qu'il puisse commencer à travailler normalement. Parce qu'on ne vole pas, mais on travaille.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
En plus bref, l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo étaient au cœur de la réunion du comité de stabilité financière hier mardi présidé par le ministre des Finances Doudou Fouambalikoundé. Cette rencontre a réuni la vice-ministre des Finances et les responsables des différents services de l'État spécialisés dans le secteur des finances publiques. Les discussions ont couvert en détail le secteur bancaire, le secteur des assurances ainsi que d'autres points clés du comité de stabilité financière.
Actualité internationale.
Depuis 2 semaines, le Kenya est secoué par une vague de contestations déclenchée par le projet de loi prévoyant de nouvelles taxes. Les manifestations ont été perturbées par les violences. Les militants à l'origine du mouvement veulent repenser leur stratégie. Malgré l'annonce par le président Ruto du retrait du projet de loi controversé, les appels à se mobiliser dans le pays persistent. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes, mais à Nairobi, le mouvement a dégénéré en violence, la police tirant notamment des gaz lacrymogènes sur des foules qui lançaient des pierres dans le centre de la capitale. À Mombasa, dans la deuxième ville du pays, des voitures ont été incendiées et au moins un commerce a été vandalisé. Et puis, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a besoin d'$1,5 milliard pour répondre aux besoins des plus de 3,3 millions de personnes forcées de fuir le conflit en cours au Soudan. Le conflit a également provoqué le déplacement de près de 10 millions de personnes, dont plus de 2 millions qui ont traversé les frontières vers les pays voisins. Depuis l'escalade des combats dans la région de Darfour, le ACR a enregistré en Libye plus de 20 000 nouveaux réfugiés soudanais depuis avril 2023. Avec l'arrivée de ces personnes, les services locaux disponibles à travers le pays sont débordés, alerte l'ONU.
L'invité.
Babou Ramazani, directeur ad intérim à la prison centrale de Bukavu, est notre invité. Il revient sur cet incident ayant causé mort d'homme au sein de cette maison carcérale suite à une intoxication alimentaire d'origine criminelle. Babou Ramazani s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur le directeur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le directeur, une situation inédite s'est produite ici, samedi et dimanche, en tout 4 morts dans 2 jours. Comment vous expliquez cette situation, monsieur le directeur AI?
Il y a un visiteur qui est venu se présenter au niveau de la prison, précisément au quartier spécial. Il s'est présenté là-bas. Il était porteur de 3 bouteilles de jus. Il est entré à l'intérieur de la prison, au quartier spécial. Il a trouvé le monsieur qui devrait venir voir. Il lui a présenté le jus. Le monsieur a commencé à boire le jus. Tu vois, à la prison, il y a une solidarité. Ils étaient en groupe. Bon, l'autre a dit non, donnez-moi, je peux un peu goûter. Ils ont goûté. Le monsieur, après, il est parti. Vers minuit trente, on m'avait appelé. Nous venons d'enregistrer un décès. Selon les informations du chef de cellule, il a dit que le monsieur, il a commencé à pleurer, que la patrouille, ça ne va pas, et puis les yeux, il ne voit plus. D'un moment à l'autre, on a vu que le monsieur, il était décédé.
Ça, c'est le premier cas de décès signalé à minuit. Et le second cas?
Le second cas, c'est vers 6 heures. C'était un major de FARDC. Lui aussi, il a goûté ce jus. Il était décédé vers 4h30, 5h du matin. Vers 5h30, on m'a appelé pour dire que les deux autres viennent de décéder. On a fait revenir un monsieur là qui peut détecter c'est quoi. Le monsieur est arrivé, il a constaté non, il y a du poison. Les détenus de l'intérieur ont dit non, nous ne sommes pas sûrs avec ce monsieur, il faut aller à la polyclinique Salam, c'est là où il y a les experts. Nous nous sommes rendus avec les chefs de division de la santé pour leur dire que nous avons encore 8 cas au niveau de la prison. On nous a donné un infirmier, nous sommes descendus ici, il est venu prélever les crachats, il est rentré avec les crachats. En retournant, il a dit non, tous sont atteints, ils étaient positifs. Il est venu avec les médicaments. Première dose, on leur avait donné. Le lendemain, quand je suis arrivé ici, les détenus me disent, le dimanche là, ils me disent non, en tout cas on se sent un peu bien. Nous attendons la deuxième dose.
C'est qu'il n'y a plus lieu de se soucier pour cela.
Ce que moi je peux demander aux autorités, qu'on puisse faire les nécessaires, les 8 personnes là, qu'ils prennent la deuxième dose. S'il y a l'interruption, tu vois que ça peut créer un peu des problèmes au niveau de la prison.
Qu'est-ce que les autorités, la direction de la prison, ont fait après avoir constaté cela?
Nous avions d'abord ouvert une action disciplinaire aux deux surveillants qui étaient à la porte, qui nous expliquent comment ils n'ont pas bien identifié le monsieur qui est venu avec lui. Parce que nous avons un registre des visiteurs. Vous venez avec votre carte, on mentionne votre nom dans ce registre. Je vous demande la personne que vous venez voir, les détenus, vous donnez le nom des détenus. Mais quand j'ai demandé les registres, j'ai constaté qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Les messieurs n'étaient pas enregistrés.
Comment vous interprétez le fait que quelqu'un vienne s'introduire à la prison avec des produits toxiques et cause des morts d'hommes?
Les juges n'étaient pas périmés. Il y avait une intention de nuire. Il est venu seulement cibler ces messieurs en lui donnant du jus.
Et donc, il avait un conflit avec la personne qui est venue visiter.
Moi, j'ai l'impression que le monsieur qui est venu, il a été envoyé. On a utilisé l'ami de ce monsieur-là.
Et au niveau de la justice, il y a des enquêtes qui sont déjà en cours.
Le procureur de la République doit commencer à faire des enquêtes. Même chez nous ici, on est en train de faire des investigations pour connaître ce monsieur. Mais jusqu'à présent, on est toujours dans des investigations.
Monsieur le directeur ad intérim de la prison centrale de Bukavu, nous vous disons merci.
Merci à vous.
À vous, auditeurs de Radio Capi, nous disons aussi merci d'avoir suivi ce journal préparé par Élisée Chikota, Martin Sebujangwe, Pelé Kipela Mondo, Jude Mister Bilanda.
Pierre Diassino assurait la prise des soins et la mise en onde, et Billy Van Lotumba vous la présentait.